Bien sûr, cette dimension de mise en garde est dans le guide, mais ce guide ne se réduit pas à cette dimension-là. Ce guide, qui est d'ailleurs un outil, hein, je dirais, de travail pour tous ceux qui ont une tâche éducative avec des jeunes, ce guide a un travail, je dirais, d'information. Qu'est-ce qui est en jeu dans la pédophilie, la gravité des actes, la souffrance des victimes, le comportement des auteurs. Ensuite, ce guide donne un certain nombre d'éléments juridiques, canoniques. Ce guide donne aussi des éléments de réflexion sur ce qui est en jeu au niveau éthique, au niveau moral, et aussi ce qui est en rapport avec l'Évangile dans le travail éducatif. Et puis, un certain nombre d'éléments, je dirais, plus pratiques. Donc, bien sûr, ce guide est pour lutter contre la pédophilie, c'est clair. Mais ce n'est pas simplement qu'une mise en garde, c'est beaucoup plus large, à mon avis, beaucoup plus fort qu'une simple mise en garde.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de réévaluation du rôle de l'éducateur et du type de relation qu'il doit avoir avec les enfants ?
Oui, on peut dire ça. On peut dire qu'il y a des éléments précis. Qu'est-ce que c'est qu'être éducateur ? Comment définir la relation, la juste distance qu'il doit exister entre un adulte et un enfant ? Comment évaluer les relations dans l'ordre affectif, que les relations dans l'ordre de tout le domaine de l'éducation, qu'est-ce qui doit être juste, qu'est-ce qui doit être sain, voilà. Et ça, parfois, un certain nombre d'éducateurs, qu'ils soient laïcs, prêtres, etc., n'ont pas réfléchi à ces questions-là. Et donc, il est extrêmement important de donner des repères précis et fermes sur ces questions.
C'est aussi un guide pour vraiment détecter concrètement les cas, que ce soit dans le cadre d'une institution gérée par l'Église ou même en dehors.
On ne peut jamais dire qu'il y a de risque zéro. Hein. On essaie qu'il y ait une tolérance zéro. Il y a dedans un certain nombre d'éléments qui soulignent, décrivent des situations où là, il faut être très vigilant. Vous voyez, par exemple, des éducateurs qui sont très seuls avec les jeunes, des éducateurs qui ne travaillent pas en équipe, des éducateurs qui font leur propre organisation avec leurs jeunes. Je crois qu'il y a un certain nombre de critères, puis peut-être aussi maturité affective dans la vie ordinaire, dans les gestes qui peuvent être posés, dans les attitudes. Je veux dire, ce guide peut aider vraiment à avoir une vigilance.
Est-ce que c'est aussi un moyen pour l'Église d'aider les éducateurs, quels qu'ils soient, à détecter l'enfant qui a été victime d'abus ?
Là aussi, dans le guide, il y a un certain nombre d'éléments qui invitent à être aussi vigilant quand on s'aperçoit que les enfants ont un comportement tout d'un coup un peu surprenant, un enfant qui se tait, un enfant qui était joyeux et qui ne parle plus, un enfant qui présente un certain nombre d'attitudes qui ne sont pas celles qu'il a habituellement ou qui sont un peu surprenantes. Oui, il y a aussi ce souci d'être vigilant tant auprès des adultes qu'auprès des jeunes. Alors, c'est un guide hein, qui a 70-80 pages, il n'entend pas tout résoudre, mais je pense que c'est une contribution forte de l'Église de France pour continuer ce chemin de lutte contre la pédophilie.
La victime maintenant, donc l'enfant abusé, pour vous, c'est la priorité absolue ?
Ah oui. Et tout le dispositif qu'on a mis en place, qui continue à se mettre en place, avec la cellule de lutte contre la pédophilie, a été de mettre en place des lieux, des personnes qui peuvent écouter, accueillir les victimes, que ce soit des victimes qui viennent donner un témoignage de faits anciens, que ce soit des victimes qui viennent dénoncer des faits récents. Au niveau national, il y a une adresse internet, parole de victime, CEF. Après, il y a une personne, Ségolène Moc, qui est embauchée à temps complet pour faire ce travail. Au niveau des diocèses, il y a des structures d'écoute et d'accueil des victimes. Il y a un gros travail qui est fait pour vraiment être à l'écoute des victimes et avec les victimes, travailler à cette lutte contre la pédophilie.
Il y a une phrase dans le guide, le silence est mortifère et joue dans les affaires de pédophilie un rôle particulièrement pervers. Vous espérez enfin mettre fin au principal problème qui est cette loi de l'omerta qui a pu prévaloir dans le passé ?
Oui, c'est un peu ce que j'essayais de dire lorsque les évêques, en novembre dernier, vous savez, ont pris le temps de prier et de reprendre cette question de la pédophilie et des victimes, de dire qu'il fallait en terminer avec ce silence, un lourd hein, qui pèse comme une espèce de couvercle sur cette question-là. Je pense que des livres comme celui d'Isabelle de Golemin, qui relate les affaires à Lyon, manifestent combien il y a parfois un silence à tout niveau. Et ça, il faut que les gens puissent s'exprimer, il faut que les gens parlent. Il faut que cette question soit vraiment traitée, si vous voulez. Une question de vérité, je pense. Hein. Puis, plus on est dans cette recherche de la vérité, plus on pourra avancer dans cette lutte et plus on pourra poser, je pense, la loi à poser les choses très fermement.
Apparemment, un des enseignements qui ressort de votre guide, c'est ne jamais être seul dans des cas de pédophilie. Il faut toujours créer un groupe ou une équipe. C'est important, cette dimension d'équipe.
Je prendrai le cas d'un évêque qui est confronté à cette situation-là. Je pense que c'est très important qu'il ne reste pas seul, qu'il s'entoure de personnes compétentes, tant au niveau canonique, juridique ou éducateur. Les cellules d'écoute et d'accueil des victimes dans les diocèses, ce sont aussi des équipes. Moi, je prends mon diocèse, il y a 4 personnes dans la cellule, vous voyez, depuis quelqu'un qui est psychiatre, en passant par un enseignant, un prêtre, etc. Parce que, si vous voulez, dans ce cas-là, il y a une charge aussi affective et émotionnelle très forte, hein, avec le traumatisme qu'a vécu la victime. Et donc, je pense qu'il faut être en équipe pour accueillir vraiment et puis avancer.
Il y a aussi une chose qui ressort de la lecture, c'est cette volonté de faire que l'Église redevienne une maison sûre. Vous pensez vraiment que là, le message est bien passé ?
On y travaille. Le pape Benoît XVI a parlé de tolérance zéro. Bien sûr, c'est difficile, hein, mais je veux dire, depuis le mois d'avril-mai, où la conférence des évêques de France a pris un certain nombre de mesures, on travaille à faire de l'Église une maison sûre, sécurisée. Il y a encore du travail à faire, il y a encore des cas à traiter, il y a encore un travail de prévention. Moi, je préfère avoir une parole modeste, mais j'ai envie de dire modestement, mais bon, que nous sommes vraiment sur un chemin pour avancer dans cette lutte. Mais il reste encore du chemin à parcourir, c'est vrai.